ce jour dédié pour la Refoua Shlema et rapide de Yitzhak Yaakov ben Sarah Imenu et Avraham Avinu. Alors Yitzhak, tu poses la question, comment exprimer sa katatov, sa reconnaissance à l'autre? Alors moi je vais me permettre d'attraper ta question pour parler d'abord de l'obligation d'avoir un karatatov, la reconnaissance, et après le comment. Parce que la karatatov, la reconnaissance, c'est une chose qui est extrêmement dure et très, hélas, absente. On dit en hébreu, ani asir tova. Quand je suis reconnaissant, je suis asir tova. Littéralement, c'est que je suis prisonnier du bienfait que tu m'as fait. Ça veut dire que quelqu'un m'a fait du bien. J'ai l'obligation, d'après la Torah, de lui être reconnaissant. Et Chazal disent que celui qui n'est pas reconnaissant du bien que son prochain lui a fait, à la fin, il arrivera à ne pas être reconnaissant des bienfaits que Dieu nous fait. Et nous, on a dépassé de loin les deux niveaux. Et on n'est pas reconnaissant du bienfait que l'autre nous fait, et de Dieu non plus. Les gens, dès que ça ne va pas, pourquoi Dieu me fait ça, pourquoi il me fait ça, regarde, t'as tout, à part un petit problème, à part ça, tout va bien. T'es en bonne santé, tu vois des deux yeux, tu respires, dis merci. Ah ouais, non mais quand même, je comprends pas. Je fais Shabbat, je mange kasher. Il est où Dieu? D'accord. Mon cher ami, il te donne tout. De quoi ça provient? Que nous sommes habitués à recevoir depuis qu'on est petit. C'est naturel qu'on reçoit. Et quand on reçoit pas, ça devient anormal. C'est normal. On est égoïste. Tout nous revient. Regarde un petit enfant, tout lui revient, c'est le centre de la terre, l'autre n'existe pas. Et beaucoup sont restés bloqués à l'âge de 1 an et demi. Bon, ils sont toujours des professeurs à la fac, d'accord, mais ils sont restés au niveau de leur midot, trait de caractère, ils sont restés bloqués là-bas, surtout s'ils ont un grand titre, d'accord, et tout le monde leur doit tout. Et on a parlé dernièrement un peu d'humilité, c'est certain que ça a à voir avec l'humilité, quand quelqu'un est humble, alors il comprend qu'on ne lui doit rien, il dit merci qu'il existe, et quand on lui fait du bien, il en est extrêmement reconnaissant toute sa vie. Toute sa vie. On a vu j'ai vu dans ma vie de grande Torah qu'il y avait une reconnaissance pour des actes petits qu'on leur a fait des dizaines d'années plus tard. Alors, Rabbi Shaul Zatzal, vous savez comment les grands de Torah, ils n'ont pas une seconde pour eux. Enfin, ils n'ont pas une seconde. Ils doivent utiliser la Torah sans cesse. Bilto Torah Kanekulam, le péché le plus grave de la Torah, c'est ne pas étudier quand tu peux. Donc leur temps est extrêmement précieux, extrêmement précieux. Alors quand ils vont à un mariage, ils sont obligés d'aller parce que quelqu'un leur a fait, je sais pas, pour pas de raison X, Y, Z. Alors ils vont, mais c'est très court, ils passent, ils disent bonjour, tatata, ils partent, d'accord. Ils vont à un mariage d'un cousin, d'une cousine, une nièce, d'accord. Oh, ils viennent 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, c'est déjà un grand cavode, et après ils partent. Alors M. Nabachoulou, une fois, il a reçu une carte pour un mariage, il est parti, du début au mariage jusqu'à la fin. 7h30, 11h30, 4h. Bon, on se rend compte, on se renseigne sur la famille. Illustre inconnu au bataillon. Qui c'est ces gens-là? On ne connaît pas. Bon, peut-être une famille d'un grand rabbin? Non, une famille très très simple. Bon, on n'a pas compris. Il va là-bas. Alors, c'est une carte. Bon, il y va. 4h, il reste là-bas. Alors, on leur pose la question. Code arabe, on ne comprend pas. Il a expliqué. Quand je me suis marié, moi, quand on est sorti de la synagogue avec ma femme, on est allé chez nous à la maison. Il y avait 300 mètres à faire. Il y avait un cortège comme ça, puis il y avait une femme, toute la route, elle nous a fait « Maintenant, on est 30 ans plus tard, et puis elle a marié sa fille. Alors c'est normal, je viens à Karatatov. La femme a fait pendant 5 minutes comme ça, lui n'a pas oublié ça. 30 ans plus tard, il vient, il reste 4 heures au mariage, à Karatatov. Mon cher Rabbeinu, il ne peut pas frapper la terre. Pourquoi? Parce que la terre l'a aidé à cacher l'Égyptien qu'il avait tué. Il ne peut pas frapper le Nil, parce que le Nil a porté le panier d'osée dans lequel il se trouvait. Je ne parle pas maintenant de personne, je parle maintenant de terre, d'eau. À plus forte raison, 1 milliard de fois, un être humain. Mais c'est terrible, parce que quand quelqu'un t'a fait du bien, tu sens maintenant que tu es redevable. On ne veut pas être redevable. Pas de notre égoïsme, il y a moi, et encore moi, je ne dois rien à personne. Le Hatam Sofer, une fois, quelqu'un est venu, lui a fait beaucoup de mal, l'insulte, tout ça. Il a dit à son prochain, Je ne me souviens pas quelle bonté j'ai fait à ce monsieur pour qu'il me haïsse tellement. Quand on fait une bonté à quelqu'un, si c'est quelqu'un qui a une grande âme, c'est beaucoup travaillé, il est reconnaissant. Mais si c'est pas beaucoup travaillé, il commence à te haïr. Je me souviens, le rave d'un Mossad, d'un établissement, il m'a dit, les élèves à qui j'ai fait le plus de bien, ce sont eux qui sont partis en claquant la porte. Parce que quelque part, l'élève, on le fait tellement de bien, il ne peut pas supporter. Donc son seul moyen de se libérer de la reconnaissance, et c'est dur une reconnaissance, il ne veut pas être reconnaissant, alors il se bagarre, il claque la porte, et voilà, voilà, on ne doit plus rien, je ne dois plus rien. Le Rav Soloveitchik a dit, le prix le meilleur marché qu'il y a à payer pour rembourser une bonté qu'on nous a faite, c'est de l'argent. Quelqu'un te fait un cadeau. Tu lui dis, bon, je te paye. Non, prends ces cadeaux pour toi. Paye-le. Tu ne payes pas. Pourquoi tu veux te faire le cadeau? Oh, par gentillesse. Mais on sait quelque part, ça se peut.
Il attend un retour.
Et maintenant, c'est un retour. Je t'ai fait un cadeau. J'ai payé 20 shekels, 20 euros, 100 euros. D'accord? En fonction du prix que je payais en argent, maintenant, je donnais de l'argent, des petits morceaux de papier colorés. Et en contrepartie, maintenant, je reçois une reconnaissance de quelqu'un. C'est énorme. Le Rav Soloveitchik qui dit, tu veux maintenant le mieux, paye l'argent. Quelqu'un a rendu un service, paye. Ça coûte beaucoup moins cher. Quand quelqu'un, on m'a rendu service gratuitement, tu es tout content, d'accord? Quelqu'un t'a rendu un service. Mon cher ami, la dette que tu as maintenant, c'est toute ta vie. Toute ta vie. Alors, pas toujours on peut dire à quelqu'un, tu m'as rendu service, je te paye. Des fois, il va être vexé de ça. Mais dans les cas où quelqu'un veut me rendre service gratuitement et je peux m'en sortir en payant et j'ai le choix entre les deux, c'est beaucoup meilleur marché pour moi. Ça me coûtera moins cher de payer de l'argent plutôt que d'être redevable toute ma vie. Ça pour les gens normaux. Mais nous, on doit se travailler. Alors, ma question maintenant, ça c'est déjà sur le fait qu'il faut arriver. Il faut arriver à avoir reconnaissance envers toutes les bontés qu'on nous a faites. Prenez nos parents. Combien on doit de reconnaissance? Qui se rend compte? Le moment où on se rend compte des efforts que les parents ont fait pour nous, c'est quand nous-mêmes, on devient papa et maman. D'accord? Allez, vas-y d'abord, c'est la femme qui doit accoucher. Terrible. Après, lève-toi au milieu de la nuit, quatre fois par nuit. Puis après, il tombe malade, et comme ci, et comme ça. Et le gosse, il ne sait pas tout ça. On lui doit tout. Et il commence à grandir après. Il envoie balader ses parents dans les meilleurs cas. Ça, c'est encore gentil. Des fois, c'est pire. Combien on leur doit? Dans la Torah, il y a les tables de la loi. Le côté gauche des tables de la loi concerne du 6 au 10e commandement, les commandements qui entre l'homme et son prochain. Et les 5 premiers concernent les commandements entre l'homme et Dieu. Et dans ces 5, le dernier des 5, le 5e des 10 commandements, c'est honore ton père et ta mère. Bizarrement, c'est tellement puissant que ça ne se trouve pas dans la relation entre l'homme et son prochain, ça va être là-bas normalement, dans la relation qu'on a avec Dieu. Parce que c'est énorme, énorme. Le Talmud dit à dire Rabbi Yochanan, heureux sont les orphelins qui n'ont pas l'obligation tellement haute, tellement exigeante de la Torah de Kibbud Av V'Em. Mais c'est quoi la base? La base de cette Mitzvah, par toutes les raisons qu'on ne connaît pas, Hakarat HaTov, grâce à vous j'existe. Sans parler de tout, même que des parents qui sont des Rechaim, qui ne sont pas occupés de nous, ils nous ont mis à la DAS, comme on appelle là-bas, je ne sais pas, le truc... On doit faire Kibbud Av V'Em avec eux. Ils nous ont mis au monde. Même des fois par accident, d'accord? Quand même, néanmoins, il y a des choses qui se passent, on ne sait pas, il y a des raisons profondes. À plus forte raison, c'est des bons parents qui ont essayé dans la meilleure mesure, ils ont peut-être fait des tas de trucs de tordus, parce que les parents, par définition, c'est tordu. Tu donnes, à l'âge de 25 ans, tu donnes à un garçon qui est une jeune fille de 23 ans, c'est l'âge où ils commencent à avoir des enfants, normalement, qui ne sont pas du tout expérimentés, ils sortent de la jeunesse bête où ils ont fait les 400 coups, et tout coup, ils ont un gosse, d'accord? Et comment ça se mange? D'accord? Comment ça se mange? Qu'est-ce qu'on fait avec? C'est pas facile du tout. Alors, il y a toujours beaucoup d'erreurs. Baruch HaShem, l'aîné doit recevoir deux fois plus dans l'héritage. C'est normal, le pauvre. C'est le Kobe. C'est ouais. La Torah, c'est comme ça. Ouais.
C'est
comme ça.
Rien à voir en retour, c'est d'amonter à quelqu'un. Mais, par exemple, pour le chinour, pour l'éducation d'un enfant, est-ce que si le père fait beaucoup de choses pour l'enfant et qu'il n'y a rien en retour, est-ce que pour l'éduquer, pour lui apprendre la karatatov, est-ce qu'il a le droit de lui exiger de la karatatov?
Bien sûr. Au moins qu'il dise merci. Et qu'il dise si. Et qui dit, s'il te plaît, maman donne-moi ça, papa donne-moi ça, je donne-moi. J'ai faim, ouais, je veux, Je veux du coca. Même pas passe-moi le coca, je veux du coca. Passe-moi le coca, s'il te plaît. Le s'il te plaît, et tu verras que les enfants, ils veulent pas le dire.
Pourquoi ça?
Parce que c'est abaisser leur ego. S'il te plaît, c'est faire une demande. Tout m'est dû. Ouais. Un gosse, tu te bats, c'est environ 3000 fois, tu le répètes, Beva Kacha, s'il te plaît. Toda, merci. Au moins 3000 fois, je suis genre 30 000 fois, 40 000 fois. D'accord? C'est ça l'éducation. On ne va pas changer quelqu'un. On répète. À la fin, ça entre. Il faut répéter sans cesse. Et ils veulent pas. Tu vois, ils ont quel genre, 3 ans, 4 ans. Ego.
Des fois, ils disent même pas, comme ils disent, comme c'est fait coca.
Voilà. Voilà, même pas, je veux du coca.
Une objection.
Voilà. On lui doit coca, exactement.
Nous, on serait...
Exactement. Alors maintenant, comment faire un karatoto avec quelqu'un? Le meilleur karatatov, c'est lui donner ce dont il a besoin. Il a des besoins spirituels, des besoins physiques. Aller dans ce sens-là. Il est écrit que celui qui sourit à son prochain, c'est comme s'il lui donne un verre de lait. Il lui montre ses dents. Malbin Shina, c'est marqué, il blanchit ses dents. Souriez. Tu vois quelqu'un, tu lui souris, ça fait plaisir. C'est énorme. Les gens, pour un sourire, des fois, ils ont une vie à changer.
Donc, ils sont tous des angoissés, des stressés. Il ne m'a pas souri. Pourquoi?
Même pas qu'on rentre dans une paranoïa. Mais on est stressé, nous. Donc, quelqu'un qui voit, il fait un grand sourire. Ça fait plaisir. Quelqu'un est heureux de me voir.
Ouais, c'est vrai.
Quelqu'un est heureux. Des gens stressés toute la journée, ça stresse aussi. Tu vois quelqu'un heureux et te sourit. Vous connaissez cette histoire dans le Talmud, il y avait une fois, c'était, je crois, Rabbi Shimon ben Levi, qui était avec Eliyahu HaNavi, il lui a dit, dis-moi, qui dans le marché, là, il a droit au lamaba? Il a demandé deux clowns. Il les a amenés. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ben nous, on fait rire les gens pour qu'ils soient heureux. Ils n'avaient pas au lamaba. De tout le marché, personne d'autre. Oui.
Beaucoup des humoristes, sinon...
Non, j'ai pas des clowns humoristes au lamaba. Quelqu'un qui va apprendre maintenant, quelqu'un qui n'est pas un humoriste du tout, mais qui prend son temps maintenant pour aller réjouir des gens qui sont tristes.
Ouais.
Je ne peux pas garantir qu'on va là-bas, mais il a de fortes chances d'y arriver. Ouais, c'est un grand chesed. Il voit maintenant un karatata doit faire du bien à l'autre. Quel bien on peut faire? Le rendre heureux. Comment rendre heureux? Avec de l'argent, c'est pas le bon moyen. Lui donner ce dont il a besoin, de quoi on a besoin. De joie, de bonheur. Alors, ou bien tu vas lui donner de l'enseignement de Torah, une construction spirituelle, ce qui est énorme. Ou des bienfaits physiques aussi. La chose la plus facile que j'ai dit, maintenant tu souris, c'est déjà quelque chose d'énorme. Tu dis un mot gentil. La Gemara, elle dit dans Bava Batra, si un pauvre vient, on lui donne une pièce de monnaie, on reçoit 6 brachot. Si on le bénit, on reçoit 11 brachot, si je me souviens bien, 11 brachot. Le fait de bénir rajoute 5 brachot. Maintenant, demande au pauvre, qu'est-ce que tu préfères, une deuxième pièce? Ou bien une bracha, une deuxième pièce. Mais on voit que la bracha, elle a une importance très grande. J'imagine que c'est une deuxième pièce, une deuxième pièce, il n'y aura pas 6 brachot en plus. 6 brachot, peut-être plus fort, mais toujours 6 brachot. Ce moyen d'accéder à 11, c'est le mot gentil. Tu le bénis, tu lui dis un mot gentil. Attends, le pauvre lui-même, lui, il pense à combien il va recevoir. Il ne fait pas attention, parce qu'il est très petit dans sa façon de voir. Mais Chazal qui vont jusqu'au besoin du nefesh, ils voient que la personne a besoin maintenant d'un compliment, d'une bracha, d'un mot gentil. C'est énorme. Dans le couple. On dévie un peu, mais ça a à voir. L'endroit où on peut le plus exercer la karatatov, c'est dans le couple. Dans le couple, on est là. La raison majeure pour laquelle Dieu a fait qu'il y ait un couple, un homme et une femme qui se marient, c'est pour qu'on puisse donner. Combien de temps j'ai? Si j'ai le temps, je vous fais des développements plus grands. Il reste 5 minutes.
6-7 minutes avant.
J'ai 43
minutes de plus.
Bon, on va essayer de faire un développement un peu rapide. Le premier homme a été créé homme-femme. Un seul être humain. Dieu dit Lotov eyot hadam levado. Ce n'est pas bon que l'homme soit seul, soit un. Et c'est alors Ezer Kenek. Je vais lui faire une aide en face de lui. Il endort l'homme, fait une opération chirurgicale, il sort la femme, la met en face. Dieu dit, c'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais mettre maintenant l'aide en face de lui. Pourquoi c'est pas bon? C'est très bon. On est ensemble. On n'est jamais. T'as déjà vu ma main droite qui est pas d'accord avec ma main gauche? Lui va aller au cinéma, lui va aller à la mer. Non, ça n'existe jamais. On est toujours d'accord ensemble. Ils étaient comme ça, hommes et femmes. Parfait. Le Ramban dit, ne pense pas que c'est parce que vous pouvez avoir des enfants. Vous pouvez avoir des enfants. Ils avaient des organes sexuels intro placés, d'accord? Et ils pouvaient faire des enfants comme ça. Donc pourquoi Dieu, il les sépare? Pourquoi? Parce que étant donné que les deux ensemble, ils vont très bien, ils peuvent vivre en autarcie. Jamais donner l'un à l'autre. On est le même corps. Donc il n'y a pas de don. Hachem veut qu'on devienne Tov. Tov signifie bon. L'autre Tov, ce n'est pas bon qu'il soit seul. Je vais maintenant lui mettre sa femme en face, sa moitié en face. Et chacun maintenant aura besoin de l'autre. Et on pourra vivre ensemble que si l'un va donner à l'autre ce dont l'autre a besoin. Et de quoi on a besoin? Principalement d'estime, d'amour, d'attention. Donc l'endroit où on peut le plus exercer la karata Tov, c'est dans la maison. On doit énormément à sa femme, sa femme doit énormément au mari. Si le mari et la femme se comportent plus ou moins comme il faut, on doit beaucoup. La Gemara parle de Rabbi Chiya. Rabbi Chiya, le Talmud témoigne qu'il avait une femme mauvaise. Ça n'existe pas une femme mauvaise, ça fait 2000 ans qu'il y en a plus depuis Rabbi Chiya. D'accord. Si le Talmud témoigne, c'est que c'est vraiment une sorcière, d'accord, une chlet de chlet, d'accord.
Qui souffre encore.
Et chaque fois, le Talmud raconte que Rabbi Chiya allait dans le marché, chaque fois qu'il voyait un objet sympathique, il l'achetait, il l'enveloppait gentiment pour amener en cadeau à sa femme. Les élèves lui ont dit, « Kvod Arabe, on sait très bien qui c'est votre femme, pourquoi tellement d'attention ?» Il dit, « J'ai la reconnaissance. » De quoi? Des enfants qu'elle m'a fait. Et qu'elle me sauve du péché. Si je n'ai pas de femme, je vais regarder d'autres femmes. Maintenant, est-ce que la femme de Rabbi Chiya, elle sauve du péché son mari, elle fait les enfants pour lui?
Pour elle.
Les enfants, c'est ses enfants aussi à elle. Sauf du péché, parce que c'est une femme. Elle n'a pas fait exprès d'être femme. Enfin, elle est mariée avec lui, donc par la force des choses, ils ont des relations de temps en temps, comme s'il n'avait pas regardé d'autres femmes. Mais elle n'a pas fait ça pour lui. Néanmoins, vu que Rabbi Chiya en profite, ils sont déjà une reconnaissance énorme. Et à part ça, c'était une ordure, cette femme. Et néanmoins, ils sont une reconnaissance terrible. Grâce à elle, je ne pêche pas, et grâce à elle, elle éduque mes enfants. Donc, quelle reconnaissance énorme! Donc dans le couple, il y a une place à reconnaissance énorme. Maintenant, comment on fait? On va donner. Donc le but du mariage, comme j'explique, le tov, c'est donner. Qu'est-ce qu'on peut donner? Il y a trois niveaux de dons. Le don le plus bas, c'est l'argent. Tu fais un chèque, tiens, achète-toi un moto de fourrure, laisse-moi tranquille. Bon, c'est un don, c'est bien, elle est contente, mais c'est un petit don. Le don plus haut, c'est physique. Tu l'aides, tu vas faire des emplettes, tu l'as nettoyé, tu revis un machin, quelque chose, tu arranges la machine à laver, bon, tu rends service. Troisième, c'est le don d'âme, qui est le plus grand, parce que nous sommes des âmes. Le corps n'est qu'un outil de l'âme. C'est quoi un don d'âme? C'est la parole. Lui dire, je t'estime, tu es quelqu'un de bien, je te remercie, je suis heureux avec toi. Combien ça fait du bien? Dans une maison normale, et je dis ça à Avrechim d'habitude, pas question de venir au collège demain matin si tu n'as pas dit 100 mots pareils par jour à ta femme. 100, il me dit 100, bien sûr, tu vas par salve, 5-6. Chérie, quel bonheur d'être avec toi, je suis le plus heureux de. Ouais, quel bonheur. Hein?
Jamais.
Je te pose la question, c'est ta question que tu la poses, c'était le centième qui la pose, d'accord? Je te dis maintenant, Raphaël, tu es quelqu'un de bien. Et un jour, tu vas me dire que tu en as marre de m'entendre dire ça?
Ouais,
on change de disque. On est bien sûr, on va être un peu. On faut être un peu. Un peu original. Mais bien sûr, c'est vital. Donc tu parles dans ta carte, donne à l'autre ce dont il a besoin. C'est le don d'âme, ça c'est le plus grand qu'il y a. Un sourire, une gentillesse, une attention, c'est montrer que. Tu estimes l'autre, il est important pour toi. C'est la chose la plus importante qu'on puisse donner à l'autre. Bahou Khadonai, l'Olam Amen.